enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Restons debout pendant qu'on lit la parole de Dieu ensemble, dans le psaume 1, les versets 1 à 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Et encore un dernier verset tiré de la deuxième épître de Timothée, chapitre 3, pardon 4, verset 13, de Timothée, chapitre 4, verset 13, c'est Paul qui dit à Timothée, son fils spirituel, « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, et surtout les parchemins. » Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Je pense que la parole de Dieu vaut la peine qu'on l'honore en se levant devant elle. Amen. Ce matin, j'ai voulu, vous parler d'un thème qui m'est cher. En tout cas, l'Esprit-Saint m'a ces derniers jours travaillé à ce sujet-là. En lisant le texte de l'apôtre Paul, dans la seconde épître, l'apôtre Paul rédige là sa toute dernière lettre. Il est en prison à Rome et il sait pertinemment que c'est la fin, que finalement il lui reste peu de temps à vivre et que l'exécution va arriver bientôt. Plus tôt, précédemment, 4-5 ans plus tôt, il avait été en résidence surveillée à Rome toujours. Il avait rédigé une première lettre à Timothée et celle de Tite. Il avait encore l'espoir de partir et de voir les frères. Mais là, terminé, il le sait, c'est fini. Et pourtant, dans les ultimes versets, il demande à Timothée une chose singulière. Une première, je dirais, naturelle. Avait-il peut-être froid en prison? Il avait pris de l'âge? Il avait un manteau chez Carpus et il s'est dit, ça me fera du bien. Ou alors peut-être simplement ce manteau lui rappelait de très bons souvenirs. Il savait que sa fin était proche. Il venait de rédiger quelques versets précédemment. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée, Jerry. La couronne de gloire m'est réservée, dit-il. Et puis il rajoute, ramène-moi les livres. Ramène-moi les parchemins. Et je trouve que cette deuxième lettre de Timothée est extraordinaire en fraîcheur. On ne sent pas un homme défait, mais plutôt un homme qui, connaissant le départ proche de sa vie, va encore transmettre un tas d'instructions, un tas de conseils de sagesse à un jeune ministère, à un pasteur qui est en train de monter et qui sera son relais. Il transmet et il transpire une fraîcheur intérieure. Et je me suis interrogé, mais pourquoi Paul était tellement frais? Qu'est-ce qui faisait sa force? Et je crois que le verset 13 identifie d'où il tirait ses forces, d'où il tirait cette fraîcheur. Elle résidait dans le fait que Paul, malgré le fait qu'il allait mourir, malgré l'imminence de son départ, continuait à cultiver et à nourrir son âme avec la parole de Dieu. Nous avons lu dans le psaume chapitre 1, un psaume introducteur au reste des psaumes, nous avons lu « Heureux l'homme ». Même départ que dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux serez-vous lorsqu'on vous traitera de toutes sortes de noms d'oiseaux à cause de mon nom. » Parce que, etc., vous connaissez les versets. Il y a là une bénédiction. Et le rédacteur dit pourquoi cet homme-là, il est béni. Et pourquoi il est béni? Et pourquoi finalement, tout ce qu'il fait, quelque part, lui réussit? Tout ce qu'il fait, lui réussit, même si en cours de route, il y a des fois des échecs, des hauts et des bas. Mais finalement, en fin de compte, sa vie a du poids. Elle a de l'impact. Elle a un poids éternel. Des Daniel, des Joseph, des Moïse, Jésus, des Pierre et des Paul auraient pu rester des illustres inconnus, mais ils ont traversé l'histoire. Et avec leur témoignage, avec leur vie, ils ont impacté de nombreux croyants, des millions et de millions de croyants et de croyantes qui sont devenus forts à cause de leur exemple. Maintenant, j'aimerais voir avec vous, eh bien, quel est le secret. Le secret d'une vie heureuse, d'une vie réussie. Peut-être le mot réussi a des fois une connotation très très mercantile ou très très économique. On pense que celui qui a réussi, c'est celui qui a fait qui a réussi à acheter 3 maisons, 15 Ferrari et etc. C'est pas forcément le même concept que Dieu a dans le fait de réussir. Jésus n'avait ni Ferrari, ni maison, mais sa vie était réussie. Amen. Vous pouvez dire amen, hein, vous avez le droit de réagir. Je sais qu'il fait chaud ce matin, je ne sais pas pourquoi, on est en décembre, mais là c'est la forêt tropicale là-haut. Hein. Je ne sais pas comment c'est pour vous. En tout cas, merci Daniel pour la chaleur d'aujourd'hui, ça nous fait du bien. Ça nous évite de prendre des angines ou des grippes. Hein. Sauf quand Samuel prend son mouchoir et diffuse dans l'air ses microbes. Et après, il trempe ses doigts dans mon verre, je voudrais boire. Voilà. En fait, il veut m'achever, c'est ça qu'il fallait comprendre. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Quels sont les ingrédients qui a fait que cet homme-là de psaume 3, qui est décrit un homme général, qui va être vous et moi, qu'est-ce qui fait que cet homme-là a une fraîcheur extraordinaire, ressemble à un arbre planté près des courants d'eau dont le feuillage ne se flétrit point? Premier point peut-être, il y a une intégrité intérieure. Il y a une marche intérieure. Il y a une stratégie d'évitement, d'association synonyme de chute. Tout d'abord, il est dit, il ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Autrement dit, il cherche du secours, il cherche de l'aide, il cherche de la sagesse auprès d'hommes et de femmes, eh bien, qui sont eux-mêmes des hommes et des femmes pieux, qui connaissent Dieu et qui avancent. Voyez-vous, le problème du méchant, c'est que peut-être le méchant croit notre route sans forcément avoir l'air d'un méchant. Le danger qui nous guette tous, c'est que le méchant, on a du mal à l'identifier. C'est pas forcément l'homme injurieux, insultant, l'homme grossier. Non, le méchant peut être très, très, je dirais, séducteur, avec un langage tout à fait positif. Je pense à Lot, le neveu d'Abraham. Cet homme marchait avec Abraham, il le suivait. Et des fois, c'était même un suiveur, je dirais, plutôt qu'un homme qui pilotait sa vie. Et cet homme va, à un moment donné, face à un choix de vie, alors que les bergers se querellent entre Abraham, enfin, berger d'Abraham et de Lot se querellent au sujet d'un territoire, d'un pâturage gras. Abraham dit, si tu vas au nord, je vais au sud, tu vas à droite, je vais à gauche. Et il est dit dans Genèse 12 ou 13 que Lot leva les yeux et vit les belles vallées fertiles de Sodome et de Gomorre. Et il fit le choix de s'installer dans cette vallée. Et je pense que, à mon avis, son choix n'a pas été celui que de son cœur à lui. À mon avis, il y en a qui ont dû lui aider à faire le choix. Peut-être les siens, sa famille, voire peut-être ses bergers, ses employés, ses contremaîtres qui ont dit, Lot, voilà l'occasion, c'est là qu'il faut aller, allez, vas-y. Le méchant qui nous donne des conseils n'a pas forcément toujours l'apparence méchante. C'est pas toujours un homme avec un regard haineux. Et parfois, il peut être très séducteur. Très séduisant plutôt. Séduisant dans son discours, dans sa façon de penser. Et finalement, on risque d'occasionnellement d'abord de faire avec. Et puis deuxièmement, il est dit, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ces jours-ci, il était prêché sur le péché récemment. Quelqu'un disait, lorsqu'on est devenu chrétien, on ne peut plus pécher. Certes, on pêche encore, mais si avant c'était naturel et on s'y donnait sans trop se poser de questions, quand on devient chrétien, que l'Esprit Saint nous a régénérés, nous ne pouvons plus pécher naturellement, ça nous touche. On a une nouvelle sensibilité au péché. Quand il s'approche de nous ou nous de lui, on se rend vite compte. Non, là, ça allait trop loin. Tiens, ce mot-là est trop, cette phrase dans un mail est trop. Ou tel regard furtif sur une émission de télévision malsaine, ah, c'est trop. L'Esprit Saint en nous nous dit, ne fais pas. Mais là, il est marqué, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Lot, au contraire, s'est installé près de Sodome et de Gomorre. Tranquillement, il s'est installé. Il a fait sa maison à Sodome et Gomorre. Et il n'a pas considéré quelle allait être l'influence de ces villes sur son comportement à lui, voire sur sa génération de descendance, ses filles. D'ailleurs, Lot, à un moment donné, alors que les anges veulent venir le sauver de Sodome et de Gomorre, lorsqu'il commence vraiment à se rendre compte que c'est grave, alors que les anges arrivent dans la ville de Sodome et de Gomorre, et arrivent chez Lot, et tout à coup, le soir, il est marqué, tous les hommes de la ville de Sodome, des plus jeunes aux plus aînés, sont venus frapper à la porte de Lot pour qu'il lui livre les deux hommes qui sont arrivés, afin qu'il les connaisse. En clair, afin qu'il couche avec eux. Et Lot, pour ne pas souiller sa maison outre mesure, va avoir une proposition absolument ahurissante. Lui qui est un homme pieux et juste, la Bible dit que Dieu le voulait sauver parce qu'il était juste. Cet homme pieux qui se tourmentait, est-il marqué dans 2 Pierre, il se tourmentait nuit et jour à cause de ce qu'il voyait. Cet homme a proposé ses deux filles vierges à une bande de pervers. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, qui ne s'habitue pas à la voix des pécheurs. Et finalement, il marquait, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Lorsqu'à un moment donné, Lot va proposer les filles, les gens lui disent, mais qui es-tu toi l'étranger pour venir nous donner des conseils et être notre juge? Apparemment, Lot avait déjà gagné une certaine position sociale au sein de Sodome et Gomorre, et on l'écoutait. Autrement dit, il était devenu une forme d'influence. Voyez-vous, il y a une progression dans le péché. D'abord, c'est occasionnel. On ment occasionnellement. Hein, c'est... Qui peut dire qu'il n'a jamais menti, qu'il lève sa main, je le vois tout de suite. Mais voyez-vous, à force de mentir occasionnellement, ça peut devenir une habitude de vie que de mentir occasionnellement. Et l'occasion devient un style de vie. Et finalement même, eh bien, on devient une influence. Vous savez, les plus proches le remarquent. Les enfants le remarquent bien. Et finalement, ils ne font que imiter ce que les parents font. Bien-aimés, on voudrait tous être comme des arbres plantés près des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, qui donne sa fruit en sa saison. 2 points. Tout ce qu'il fait lui réussit. Qui n'a pas envie de ça, qui lève sa main Mais il y a là une première attitude de cœur, celle de vivre une forme de une stratégie d'évitement, d'association, synonyme de chute. Je ne dis pas qu'il faut maintenant vivre retiré, reclus dans un monastère. On rendrait nulle la parole de Jésus qui dit « Allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle ». À un moment donné, nous allons être en contact avec des incroyants. Et ce monde autour de nous va avoir une influence sur nous. Mais c'est une chose que d'avoir du contact, d'avoir des contacts divers et variés, professionnels, sociaux, etc. C'en est une autre que de s'habituer et de faire comme les autres. Et finalement, de ressembler aux autres. Voyez-vous, je ne pense pas que nous péchions grossièrement du jour au lendemain, je ne crois pas ça. En général, c'est progressivement qu'on glisse vers la pente. Ou sur la pente. C'est progressivement. D'abord, une pensée qui vient, puis on se dit, oh, c'est pas si grave que ça. C'est un argument choc du diable. C'est pas si grave que ça. Allez, c'est pas si grave que ça. Un petit mensonge de circonstance. C'est pas si grave que ça, un petit coup sur un site osé. Personne ne l'a vu. Sauf Dieu, et vous savez qui encore? Les serveurs. Savent exactement qui était où et quand. Ne pensez pas qu'on ne sait pas. Et vous savez, votre conscience sait. Et puis une deuxième fois, et à la fin on s'y habitue, je suis comme ça, et à la fin on s'y installe, et après on se demande, mais pourquoi est-ce que l'autre, pourquoi des gens comme Paul, ils ont une vigueur intérieure, ils ont une fraîcheur, et pas moi? Eh bien la raison est aussi là-dedans peut-être. On entend quelques versets plus tôt dans la deuxième lettre de Timothée 4, Paul se laisse une pointe de désappointement monter dans le texte. Il dit, le forgeron Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Et puis une phrase qui est terrible, que je voudrais ne pas devoir lire, mais il dit, Démas, et Démas était un compagnon d'œuvre, un homme qui prêchait l'évangile, un homme qui connaissait le Seigneur. Il dit, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Voilà un serviteur de Dieu qui pendant un temps a bien dû amener des hommes et des femmes à connaître le Seigneur. Et finalement, il a fini dans le monde. Et ce qu'on garde de lui, c'est un souvenir négatif. Peut-être qu'il doit nous réveiller et nous dire, j'ai pas envie de lui ressembler. Je voudrais être comme Paul plutôt que comme Démas. Qu'est-ce qui fait qu'on peut ressembler comme un arbre planté près des eaux? La première chose, c'est une attitude intérieure de cœur. Celle de dire, je réponds à l'Esprit Saint en moi qui me dit de faire ou de ne pas faire. Oui, j'obéis à son injonction. Oui, j'y vais, je l'obéis même dans les petits détails. Moi, des fois, il y a des mails qui vont très vite chez moi. Et j'ai appris à les relire. Voire une heure après, deux heures après, à les relire et me dire, est-ce que tu aimerais qu'on t'adresse un mail avec ce ton-là? Mais j'arrivais à effacer des mails complets, de recommencer. Parce que là-dedans, je sentais que, non, ce que tu fais là n'est pas juste. Tu es trop dur. Mets une dose de compassion dedans. Injecte de l'affection fraternelle. Honore le frère. Respecte le prochain. Et puis deuxièmement, il est parlé d'une autre chose, il est marqué, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Non seulement dans sa vie de tous les jours, il se protège, il se prémunit, mais en même temps, il se nourrit de quelque chose. Et il se nourrit profondément de la parole de Dieu. Il n'est pas dit qu'il s'est soumis à une loi légaliste, mais il s'en nourrit. Il trouve son plaisir dans le texte. Il nourrit sa confiance. Il mange la parole. Lorsque dans Josué chapitre 1, verset 8, Dieu donne un conseil fondamental à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. On aurait pu se dire, mais Seigneur, il faudrait que Josué aille voir une école militaire, qu'il apprenne auprès de grands stratèges. Il est sur le point d'aller envahir un pays, Canaan. Et Dieu lui dit, non, prends du temps conséquent, prends du temps de qualité pour te nourrir intérieurement, pour nourrir ta foi. Parce que voyez-vous, Dieu parle au travers de la parole de Dieu. Et ce qu'il fallait absolument choisir, c'est qu'il entende la parole de Dieu lui parler. Parce que des fois, il fallait attaquer frontalement, des fois par derrière, des fois utiliser une stratégie autre. Il fallait donc être à l'écoute de Dieu. Parce que c'est Dieu qui mène la bataille. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait. Et finalement, il l'a fait et Josué a obtenu des victoires. Résultat pour cet homme-là, il est dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez-vous, ce n'est pas n'importe quel arbre, ce n'est pas un arbre sauvage, c'est un arbre planté. La vie chrétienne commence par un jardinier qui plante nos vies dans son jardin. Il nous cherche comme des oliviers sauvages et il nous greffe ceux d'oliviers francs. Il nous prend comme des arbres sauvages et il nous plante près des courants d'eau. Et ce courant d'eau, c'est la vie de l'Esprit, c'est le courant de la parole de Dieu et c'est le courant aussi de l'Esprit Saint. Et ce courant a plusieurs affluents, l'affluent de la miséricorde, l'affluent de la consolation, l'affluent des promesses de Dieu, l'affluent de la patience que donnent les Écritures. Il est planté, il est solide. Il est solide. Il est planté près d'un courant d'eau. Matthieu 15, verset 13 déclare, « Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. » Voyez-vous, la vie chrétienne, ce n'est pas juste faire partie d'un groupe chrétien. La vie chrétienne, c'est avoir été choisi par Dieu. Et Dieu dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Et c'est lui qui veut nous greffer et nous planter dans un bon sol où nous portons des fruits. Et pour porter des fruits, faut-il que nos racines se développent. Un bon arbre est un arbre qui développe des racines. Et on sait quand on prend un arbre jeune et qu'on transplante, il y a un temps dangereux. Il faut que les racines se refassent. Il faut qu'il retrouve un terrain solide. Et voyez-vous, cet homme-là, des Paul, des Jacques, des Daniel, ils ont développé un système racinaire, certes invisible, mais qui les a tenus au temps des difficultés. Qu'est-ce qui a permis à Shadrach, à Meshach et à Abednego, à Daniel de tenir face à la fournaise, face à la fosse aux lions? Qu'est-ce qui leur a permis d'avoir la force de renoncer à plier devant la menace du roi? C'est simple, ils avaient développé des racines profondes, des racines qu'ils avaient puisées à différentes sources, afin qu'au moment où les choses deviendraient difficiles, où ça va devenir chaud, eh bien, ils tiennent le choc. Ils tiennent le choc. Paul n'est pas là hein, en disant, oh là là, bientôt je vais mourir, viens vite Timothée, viens vite me voir, console-moi s'il te plaît, fais-moi du bien. Non, Paul, c'est l'inverse. Il est encore là à donner du fruit, à multiplier les conseils, afin que Timothée devienne fort. Comme un arbre planté près des courants d'eau. Une des raisons que la parabole du semeur déclare être une raison de chute de certains, c'est le manque de racines. C'est le manque de racines. C'est le manque de racines. Oui, la graine a été semée, elle a monté très vite, mais par manque de profondeur, par manque de racines, quand la chaleur est venue, quand la persécution est arrivée, quand les difficultés sont approchées, eh bien la plante a desséché sur pied et elle est morte. Et puis il est dit, ils portent du fruit en leur saison. Un arbre qu'on plante ne porte pas tout de suite du fruit la première année. Il faut un certain temps. Mieux que ça, je n'ai jamais cherché une pomme en Alsace, une pomme en avril sur un arbre, jamais. Ça vient, mais plutôt en juillet et après en automne. Par contre, les fraises, c'est mai-juin, n'est-ce pas? C'est la saison des fraises, ou c'est la saison des cerises. Les bonnes cerises rouges. Ah, mais j'étais petit, hein. Je me rappelle d'un épisode, on avait pillé avec une bande de copains, on avait pillé un arbre en une soirée. On avait tout mangé, enfin tout mangé. Le plus gros était mangé, quoi. On avait des dents bleues comme ça, vous savez. Et des mains bleues, ça partait de partout, ça sortait de partout. Enfin, on aimait les cerises, voilà, c'est tout. Ils portent du fruit en sa saison. Les uns, c'est des pommiers, les autres, des cerisiers. Alors, tout le monde n'est pas toujours en train de porter les mêmes fruits tout le temps. Ce serait dommage d'avoir tout en même temps, n'est-ce pas? Vous imaginez les cerises, les prunes, les pommes en même temps? C'est pas possible, ce serait trop. Et parmi nous, c'est pareil. Il y a des cerisiers d'un côté. Il y a des pruniers de l'autre, il y a même des marronniers. Ça pique des femmes, mais c'est bon, avec de la chantilly, oh que c'est bon. Une torche au marron. J'en salive déjà. Amis internautes, excusez-moi, mais je suis comme ça, voilà. Ma mère m'a fait comme ça, voilà. Non seulement ils portent du fruit, parce qu'ils ont de la force dans les temps de sécheresse, parce qu'ils ont des promesses qu'ils ont puisées dans la parole de Dieu pour tenir le choc au temps des difficultés, parce que leur foi est fondée sur la parole révélée à leur vie, ils tiennent le choc. Ils tiennent le choc de la sécheresse. Et ça peut arriver des fois, des années de sécheresse. 2003 a été une année de sécheresse, n'est-ce pas? Et puis ils ont un feuillage toujours vert. Le feuillage, pour moi, c'est le synonyme de la du témoignage. Quelque part, quand on les rencontre, ils sont comme ils sont, mais ils sont toujours quelque chose de bon. Ils vivent avec Dieu tous les jours. Pas forcément toujours un miracle ou une résurrection, mais en tout cas, ils vivent avec Dieu quelque chose. Ils ont un feuillage vert. Certains les calomnient, mais d'autres les honorent parce qu'ils ont fait du bon travail, parce qu'ils portent du bon fruit. Et puis, il est marqué deux points. Ils réussissent tout ce qu'ils font. Ça, c'est intéressant quand même, hein. Des fois, on pourrait peut-être se dire, faire la lecture du type, si tu veux réussir ta vie, alors fais ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est l'inverse, là, dans ce texte. C'est, lorsque tu fais cela, le résultat naturel va être que malgré parfois tes erreurs et tes égarements, Dieu te donnera de réussir. N'est-ce pas? Toutes ces choses vous seront données en plus. Seront données en plus. David a fait des erreurs grossières et terribles. Mais pourtant, ce qu'il a fait, il l'a réussi. Paul a fait des erreurs aussi. Apparemment, c'était un sanguin et un sang chaud. Hein. Acte 16, avec Barnabas, ça a clashé violemment. Et pourtant, mais Paul, après, il a mûri aussi, il a grandi. Et puis, il a ramené Marc, qu'il avait un peu écarté du chemin. Il l'a ramené dans le ministère. Il a dit, envoie-le-moi, il m'utile pour le ministère. Waouh! Il a mûri, il a porté du fruit. Est-ce qu'il a fait? Ça a réussi. Et sa théologie, il nous l'a transmise dans l'épître aux Romains, mais c'est des épîtres formidables. Ces hommes ont marqué le cours de l'histoire. Autrement dit, ils ont pris du poids. Verset 4 dit, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme de la paille qui est emportée par le vent. Et la paille, c'est ce qui restait lorsqu'on battait le blé, on jetait en l'air, on soulevait en l'air le grain, et la paille partait par le vent qui l'emportait. On récoltait le blé en dessous. Voyez-vous, je pense que Dieu veut absolument que chacun de ses enfants, de ses fils et de ses filles, prennent du poids spirituel. Mes deux petites filles, j'ai plaisir qu'elles prennent du poids. Une qui est malade, qui perd du poids actuellement, mais je lui demande de manger. Allez, ma fille, mange, s'il te plaît, mange. Et Dieu veut que nous prenions du poids. Un bon poids spirituel. Un poids d'intégrité. Un poids de connaissance du Seigneur lui-même. Un poids de prière. Dans le texte de Daniel 5, on trouve le fils de Nebuchadnezzar qui, à un moment donné, dans sa folie de roi, il est roi là depuis quelque temps. Et à un moment donné, il fera une grosse fête pour ses nobles. Et il va faire venir les coupes d'or, les placots, les assiettes d'or du temple de Dieu qui avait été déménagé de Jérusalem à Babylone. Et il fait boire du vin pour la fête. Et pendant qu'ils font la fiesta, voilà qu'une main, qui vient de ne sais pas trop où, écrit quatre mots sur le mur. Et les mots traduits signifient peser, peser, léger, diviser. Peser, peser, léger, diviser. On cherche un interprète, on cherche des augures, on cherche des devins. Personne ne réussit à traduire. Et puis on se souvient qu'il y a Daniel. Daniel vient et il lui dit, c'est la main de Dieu qui écrit cela. Tu as été pesé, sous-pesé, trouvé léger. Cette nuit même, ton royaume sera divisé. Manque de poids. Manque de poids. Alors comment prendre du poids? Vous l'aurez compris. Naturellement, c'est en mangeant bien. Hein, vous avez vu que j'ai pris du poids, c'est vrai. Bon, excusez-moi, mais... Je manque d'exercice, c'est autre chose. Être en bonne santé spirituelle est une question de choix. Vous avez un choix à faire, j'ai un choix à faire. Tous les jours. Voyez-vous, il y en a certains qui font du Weight Watcher excessif dans le domaine spirituel. Ils en mangent le mardi soir un petit peu et le dimanche matin un petit peu. Et le reste du temps, ils n'ont jamais le temps. Parce que, vous comprenez, on veut être slim et fast. Pardonnez-moi, c'est pas de la pub que j'ai faite là. Hein. Pourquoi est-ce que Dieu nous encourage? Pourquoi ce texte nous encourage à prendre plaisir à la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, elle permet de résister à l'ennemi. Elle permet de résister à l'ennemi. Moi, je suis épaté comment Jésus a résisté à l'ennemi. Il n'a pas fait un grand show spirituel. C'est moi, fils de Dieu, attention, j'arrive, je dégaine. Non, il a fait ce que toi et moi pouvons faire. Il a répliqué au diable par des versets bibliques. Il a manié l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais pour la manier, faut-il la connaître? Pour la connaître, faut-il l'avoir sondée, l'avoir ingérée, l'avoir mise dans le cœur? Et tout à coup, elle sera par cœur dans nos cœurs. Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8, l'apôtre Paul, sa première lettre à Timothée, dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi et suivront des esprits séducteurs et des doctrines de démons. » Je voudrais qu'un instant on garde ce verset à l'esprit. Paul dit « dans les derniers temps » et nous sommes dans les derniers temps. On n'a jamais été aussi proche du retour de Jésus que maintenant. Vraiment, je le crois, ça. Une des raisons, c'est qu'on n'a jamais vu autant l'évangile être diffusé dans le monde que cette année-ci 2007. Les médias chrétiens n'ont jamais autant explosé numériquement dans le monde entier que cette année 2007. Cette année, à Jakarta, dans, je dirais, le pays le plus islamique du monde, est née une télé chrétienne qui diffuse 24 sur 24. En Afrique du Sud, des choses qui existaient de manière semi-légale ont été légalisées. Des réseaux de radio chrétiennes couvrent le pays en entier. Et dans quelques jours, en Angleterre, ce qui ne s'est jamais vu dans le Commonwealth, nos frères anglais ont obtenu 2 fréquences nationales pour arroser du sud de l'Angleterre au nord de l'Écosse tout le pays avec l'évangile 24 heures sur 24. Ça ne s'est jamais vu. Et je crois honnêtement que le temps vient où le monde entier sera recouvert de la gloire de Dieu, mais aussi de la parole de Dieu, et elle sera apportée à tout homme, toute femme qui voudra l'entendre. Personne ne pourra dire « je n'ai pas entendu », parce que même les médias et les églises travaillent ensemble, apportent l'évangile à tout homme. Mais l'Esprit dit expressément qu'à la fin des temps, certains abandonneront la foi et suivront des esprits séducteurs. Vous savez, un esprit séducteur, ça veut dire qu'en apparence, vous ne savez pas tout de suite ce qu'il y a derrière. Vous pensez que c'est bon, mais finalement, c'est comme le petit lapin sur l'hameçon. Vous pensez que c'est bon, vous croquez dedans. Et après, il parle de doctrine de démons. Quand on parle de doctrine de démons, ça veut dire qu'il y a une construction intellectuelle savante. Ce ne sont pas des gros arguments, si Dieu existait alors. Ça, c'est facile à contrecarrer. Mais ce seront des doctrines de démons, des échafaudages intellectuels savamment pesés et pensés en sorte que même des croyants risquent de chuter et de suivre ces choses-là. Et le conseil de Paul à Timothée, c'est « prêche la parole, prêche-la avec équilibre, enseigne, exhorte, repousse les contes profanes. » Autrement dit, paie mes brebis, donne-leur ma parole, celle qui est saine et bonne et équilibrée. Autrement dit, bien-aimés, si nous voulons résister un jour à la séduction qui viendra sur le monde, nous avons intérêt dès à présent de développer des racines vers la parole de Dieu et de connaître la parole. De devenir des gens solidement ancrés dans la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a des choses qu'on peut faire pour l'autre. On peut aller faire des courses pour l'autre, on peut aller aider l'autre. Mais les choses qu'on ne peut faire que tout seul. Je ne peux manger que tout seul. J'ai beau manger pour ma femme, si elle ne mange pas, elle va maigrir. Il faut que je mange pour moi et elle l'a mangé pour elle-même. Il faut que je prie pour moi et qu'elle prie pour elle-même. Je peux prier pour elle aussi. Mais à un moment donné, c'est elle qui doit chercher la face de Dieu. C'est elle qui doit manger la parole de Dieu. Et réciproquement d'ailleurs. Deuxièmement, la parole permet de se diriger. Elle est comme une boussole. On connaît ce verset qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Bien-aimé, des fois, on est toujours là, suspendu à la dernière prophétie. C'est bien, je crois que Dieu parle par la prophétie. Et je l'ai fait aussi un temps, mais j'ai appris au fil du temps que Dieu parle par la parole de Dieu. Et elle me parle à moi. Amen. Troisièmement, elle permet de fortifier notre foi et notre persévérance. Quand Dieu fait une promesse, vous savez quoi? Il l'accomplit. Dans la mesure où nous continuons à y croire et à cheminer vers elle. Même si elle tarde à venir, crois-y encore mon frère, parce qu'à un moment donné, elle va s'accomplir. La foi, dit Paul, vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole de Dieu? Bien-aimés, si vous voulez pouvoir voir les choses se réaliser dans vos vies, il me faut prendre du temps pour écouter la parole et m'en nourrir profondément. Et moi, je m'en nourris, plus ma foi va dépérir, et ce sont les craintes qui vont augmenter. C'est les soucis qui vont augmenter. C'est les angoisses qui vont augmenter. Maintenant, mon conseil est simple. Affame tes craintes, affame tes soucis, et nourris ta foi par la parole de Dieu. Nourris-la vigoureusement. Vous l'aurez compris, je vais terminer par là. Le secret d'une vie équilibrée dans le Seigneur, le secret est dans l'assiette. Nous devenons ce que nous mangeons. Allô? Certains se disent, oh là 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 là, je suis en Biafré avancé. Paul dira, je répète ce verset de 2 Timothée 4, verset 13, Paul dira, lorsque tu viendras, Timothée, emmène le manteau et les livres et les parchemins. Les parchemins étaient les textes sacrés de l'évangile, des prophètes, dans ce testament. Amène-moi ces choses-là. Pourquoi? Parce que Paul continuait, malgré son âge, malgré l'échéance proche, imminente d'une mort certaine, continuait à se nourrir. Bien-aimé, d'un point de vue naturel, la connaissance mondiale double tous les 5 ans. Ça veut dire que si vous avez fait un diplôme universitaire il y a 5 ans, aujourd'hui il est déjà obsolète. Vous savez pourquoi? Parce que la connaissance a doublé en 5 ans. Vous devez constamment lire, vous instruire, réfléchir, continuer. De même au niveau spirituel, nous avons besoin de continuellement nous nourrir et de nous fortifier. Et Paul s'est fortifié au point qu'il a pu dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Comment l'a-t-il gardée? Parce qu'il l'a nourrie. Et il l'a nourrie abondamment. Il l'a nourrie abondamment. Alors, je vous pose une question à nous tous. C'est quoi ton menu du jour actuellement? Voyez-vous, voilà un plat. Il est vide. Vous le voyez là? D'accord. Alors, voilà le menu du jour, la Bible. Mais des fois, elle n'est pas toujours là. Elle vient après, parce que d'abord, il y a. Eh bien, il y a le catalogue de madame. Il y a la revue TV, évidemment, TV. Il y a le catalogue de monsieur. Jardin, bricolage, etc. Et dit Samuel, il y a le journal sportif, il y a le journal économique, il y a le journal tout court. Encore pour les enfants, évidemment, catalogue des enfants. Journal local, il faut le lire. Et puis j'ai pas fini, attendez voir, j'ai pas fini. Mais non. Il y a aussi le chat pour les plus jeunes. Il y a les SMS, il y a le net, évidemment, il y a le net, il y a la TNT, trinitroglycérine, non, c'est pas ça, c'est... Il y a évidemment la télévision. Et à la fin, vous savez quoi? On ressemble au petit bonhomme qui apparaît sur l'écran. Tu me l'envoies? Marie-Claire, tu me l'envoies? La Bible s'approche de nous le matin, mais déjà, la tête est pleine de toutes ces choses-là, et pleine même de soucis et d'angoisse. Qu'est-ce que je vais devenir? A-t-il été dit ce matin une prophétie? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu vas devenir ce que tu manges. Alors j'aimerais te dire, sans oublier de consulter ces choses-là, donne une bonne portion de temps à cette bonne vieille Bible. Si Paul a pris soin de la lire jusqu'au dernier jour de sa vie, bien aimé, nous sommes invités à nous en nourrir tous les jours un peu. Certes, des fois, le français de second qui est vieux, prenez une Bible en français moderne. Il y en a actuellement à 1,50€, ça ne coûte plus rien du tout, mais c'est tellement bénéfique. Amen. Je conclue en disant, nous devenons ce que nous mangeons. Ou un arbre planté près des courants d'eau, ou un fétu de paille. John Wesley disait à ses étudiants, pasteur, il disait, lisez ou quittez le ministère. Paul disait à Timothée, applique-toi à la lecture. Allô? Il y en a qui disent, j'aime pas lire, voilà, j'aime pas lire. J'aimerais te dire, tu ne sais pas ce que tu rates, tellement c'est bon. Tellement c'est bon. Georges Muller, le fondateur des orphelinats anglais, qui a amené des milliers et milliers d'enfants à la connaissance de la vérité, disait, je considère une journée comme perdue si je n'ai pas pris le temps de prendre un temps conséquent dans la parole de Dieu. Cet homme était archi occupé. Daniel a pris 3 fois par jour le temps de prier et de sonder les Écritures. Il s'en est nourri. Il est devenu un arbre planté près des eaux qui donne sa fruit en sa saison, dont le feuillage reste toujours vert. 2 points. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, alléluia.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.